notre ciel et sur la terre. Et hier soir, nous avons vu le pouvoir de Jésus, la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus sur toutes les puissances démoniaques, sur Satan lui-même. Jésus l'a vaincu pour que nous aussi, nous devenons les disciples du Christ, nous soyons vainqueurs de Satan et que nous ne prenions pas Satan pour un Dieu à côté de Dieu, hein, le Dieu du mal en face du Dieu du bien. Satan, le diable, n'est qu'une créature, nous l'avons souligné, et qui n'est pas omniprésent, qui n'est pas omnipotent et qui n'est pas omniscient. Nous avons cela dans le livre de Job en particulier, quand Dieu dit à Satan, il se présente avec les anges devant Dieu pour rendre compte. Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Et qu'est-ce qu'il dit? De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Il n'est pas partout à la fois. Il n'est pas omniprésent. Alors, il n'est pas omnipotent non plus, car quand il veut attaquer Job, Dieu lui dit jusque-là, mais pas plus loin. Il ne peut pas toucher à la vie de Job. Il pourra toucher à ses biens, il pourra toucher à ses serviteurs, il pourra toucher à la vie des enfants de Job, hein, mais il pourra toucher à la santé de Job, mais il ne peut pas le faire mourir. Et Job a triomphé de toutes ses épreuves. Et il reçut finalement plutôt des... Mais donc, Satan n'est pas omnipotent, il ne peut pas tout, et il a des comptes à rendre. Et de cela, nous devons être assurés. Alors ne traitez pas Satan comme un vainqueur, car nous l'avons lu, les croyants l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau qui a été versé et de la parole de leur témoignage. Nous avons à parler à Satan avec l'autorité de qui? De Jésus. Et il s'enfuira loin de nous. Et nous avons vu que si toute puissance a été donnée au Seigneur, c'est pour que nous aussi, nous soyons non plus des esclaves du malin, des esclaves de Satan, mais que dans le Seigneur, nous puissions triompher de toutes les puissances spirituelles de méchanceté, puisque Dieu, dans son amour, nous a donné ses propres armes. Dans Éphésiens, chapitre 6, il est dit que nous sommes revêtus, ou nous avons à revêtir toutes les armes de Dieu, l'armure complète de Dieu, c'est les armes mêmes de Dieu qui sont les nôtres. 5 sont défensives, 2 sont offensives, la parole de Dieu et la prière, et nous savons que c'est ainsi que Jésus a vaincu lui-même Satan, le tentateur, qui a osé se présenter devant lui pour le détourner de son ministère quand il commençait après son baptême. Mais nous avons vu que Jésus n'était pas seulement vainqueur de Satan et de toutes ses puissances spirituelles de méchanceté, nous avons vu qu'il était aussi vainqueur de la maladie. Une des conséquences du péché originel dans nos maladies, ce n'est pas toujours une conséquence d'un péché particulier. Faisons bien attention. Et ne soyons pas de ceux qui disent à certaines âmes que si elles sont malades, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie et on les jette dans le désarroi ou dans l'introspection. Elles essayent de découvrir la cause de leurs maux et elles finissent par le désespoir. Faisons plutôt cette prière, que j'aime beaucoup et qui se trouve dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Nous disons, « Seigneur, bien, voilà, je me suis humilié devant toi de ceci et de cela qui nous est apparu quand on examine sa vie. Mais maintenant, je ne peux pas me livrer à l'introspection. Bien, montre-moi peut-être un point qui ne va pas dans ma vie et sur lequel tu veux m'alerter. » Et alors, nous nous en remettons au Seigneur. Il nous montre la plaie de notre propre cœur. Mais n'essayons pas de convaincre quelqu'un que s'il est malade ou s'il passe par telle épreuve, c'est certainement à cause de ceci ou à cause de cela. C'est ce qu'ont voulu faire les amis de Job. Et ils se sont complètement trompés. Et au lieu d'aider Job, eh bien, il mettait sa tête sous l'eau, au lieu de le sortir, hein, de le sauver. Ils ont commencé à l'accuser, finalement. Ils venaient pour le consoler, puis petit à petit, ils sont devenus des accusateurs qui faisaient dire à Job, « Vous êtes tous des consolateurs fâchés. » Eh bien, que le Seigneur nous apprenne par sa parole à ne pas vouloir expliquer les mots des autres. Il y a des mots, comme nous l'avons vu cet après-midi, qui sont aussi pour la gloire de Dieu. Par exemple, l'infirmité de l'aveugle de naissance, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il allait donner au Seigneur l'occasion de faire un grand miracle. Non pas rendre la vue à un homme qui l'a eu et qui l'a perdu, mais donner des yeux à quelqu'un qui n'en a jamais eu, qui n'a jamais vu. Et vous savez, on se demande quelquefois, parce qu'on se pose toujours des questions, hein. Par exemple, une personne me disait qu'elle avait été frappée hier parce qu'on a montré pourquoi. Le Seigneur a permis que les démons entrent dans les pourceaux. Eh bien, ne jugez pas le Seigneur, il savait très bien ce qu'il faisait, hein. Et il savait à quoi il touchait, hein. Pourquoi les pourceaux, les Juifs n'avaient pas le droit de manger du porc, mais peut-être qu'il les élevait pour le vendre aux païens. On fait argent de tout, mais il y a une raison pour laquelle ce sont les pourceaux qui ont été touchés. C'est pas parce que Dieu n'aime pas les pourceaux, c'est lui qui les a fait, vous comprenez? Mais si on commence à faire un trafic avec des choses qui ne sont pas permises selon la loi du Seigneur en ce temps-là, eh bien, le Seigneur peut nous atteindre justement là, là où notre plaie est incurable. Mais nous revenons à ce que nous disions, le Seigneur veut être glorifié et ne le jugez pas dans ses attitudes. Je dis, vous êtes surpris par le traitement qu'il fait à l'aveugle-né, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché. Crache pas. Mais il a craché, oui. Il a craché, il a fait de la boue. Et pour donner des yeux à un aveugle, il met de la boue sur ses yeux. C'est pas le traitement quand même. Nous jugeons. Puis l'aveugle, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé faire. Il n'avait jamais vu le Seigneur. Mais il s'est laissé faire par le Seigneur. Il a laissé cette boue être mise sur ses yeux. Puis qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et il y est allé. Il a cru cette parole. Il n'a pas discuté sur le traitement que Jésus lui avait fait. Et il est allé, il s'est lavé, et il a vu. Qu'est-ce qui sauve? C'est la boue? Non. C'est d'avoir obéi. Et il s'est laissé faire. Peu importe le traitement, il s'est laissé faire. Mais pour moi, dans ce traitement, c'est tout ce qu'il est. De quoi avons-nous été tirés? De la poussière, hein? nous avons été tirés de la poussière et il lui manquait les yeux. Eh bien, le Créateur a mis encore cette poussière avec de la boue pour que ça tienne. C'est le geste du Créateur. Celui qui passait par là, c'était son Créateur qui allait lui donner la vue. Donc c'est admirable. Il n'y a pas un détail dans la parole qui ne nous enseigne pas. C'est pourquoi je suis un amoureux de la parole de Dieu. Ces paroles se sont-elles trouvées, disait Jérémie, le prophète de ma vocation. Je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Il y a des choses qui vous paraissent incompréhensibles, et pourtant, quand vous priez, tout à coup, tout s'illumine, tout s'éclaire, et tout devient objet de louange et d'adoration. Mais ne jugeons pas le Seigneur dans ses actes. Il sait ce qu'il fait. Ne le jugez pas non plus dans ses paroles. Quelquefois, il nous semble que le Seigneur est dur. Quand il interdit à ses disciples d'aller prêcher chez les Samaritains, mais pour quelle raison? Leur dit-il au début, quand il les envoie, de ne pas franchir la limite d'Israël. Pour quelle raison? On dit, mais alors le Seigneur n'aime pas les païens, là, ces gens idolâtres de Samarie n'ont pas droit à ce salut. S'il ne les envoie pas, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts pour ce travail. Car s'il voit de la résistance chez les Samaritains, alors qu'eux ont reçu la puissance contre les démons, la puissance pour guérir, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec leur puissance? C'est dans eux de manier de la puissance. Vous savez très bien que Jean et Jacques, à un moment donné, quand les Samaritains ne les ont pas reçus, qu'est-ce qu'ils voulaient faire puisqu'ils avaient de la puissance? Ils voulaient faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains, qu'on appelait des païens, n'est-ce pas? Et ils n'étaient pas prêts pour un ministère parmi les païens. Alors Dieu ne les envoie pas parmi les païens parce que ce serait des dégâts. Hein? Quand on a voulu défendre le Seigneur avec l'épée, qu'est-ce qu'il a fait notre cher Pierre? Il a coupé une oreille, il a donné du travail au Seigneur. C'est tellement qu'il ne voulait pas couper l'oreille, il voulait lui fendre la tête, mais il ne savait pas travailler, il ne savait pas combattre. Et alors il a coupé l'oreille, mais le Seigneur a dû agir et faire un miracle. Voilà, quand nous voulons faire avec nos propres forces, dans l'énergie de la chair, nous faisons des dégâts. Plus tard, le Seigneur enverra en Samarie. Puis prenez un autre exemple. Quand il est dans la contrée de Tyr et de Sidon, et qu'il y a cette pauvre femme qui souffre parce qu'elle a une fille malade, possédée par un démon, et elle crie après le Seigneur et les disciples, « Fils de David, aie pitié de moi, c'est une Cananéenne !» Mais les disciples, eh bien les Cananéens, qu'est-ce qu'on les prenait? Pour des chiens, hein? Pour des chiens. Et cette femme continue, persévère, « Fils de David, aie pitié de moi !» Puis le Seigneur, c'est comme s'il n'entendait rien, il part plus loin. Alors les disciples ne peuvent plus supporter cette femme. Et que disent-ils? Renvoie cette femme! Elle crie après nous, hein? C'est désagréable. On est disciples de Jésus. Il y a une bonne femme là qui crie après nous. Vous voyez qu'il n'entre pas du tout en sympathie, comme nous l'avons vu cet après-midi. Jésus entrait en sympathie avec ceux qui étaient malades. Il se mettait dans leur peau. Mais pourtant, Jésus a l'air d'ignorer cette femme. Ça nous fait mal, on dit, mais comment Jésus peut-il faire ça? Mais c'est qu'il prépare une plus grande délivrance. Mais que dit-il, sa parole? Il dit, il ne convient pas de donner le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Il emploie le mot que les disciples emploient d'habitude pour qualifier ces gens-là, les chiens. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle accepte. Moi, je trouve ça admirable. Elle dit, oui, Seigneur. Elle n'est pas offensée parce qu'il a parlé des chiens. Elle dit, oui, Seigneur, mais même les petit chien, elle se met encore plus petit qu'un gros chien. Même les petits chiens, ils reçoivent les miettes de la table de leur mère. Alors quand Jésus entend ça, et c'est bien à ça qu'il a voulu arriver, hein, il éclate. Il dit, je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. C'était pour rendre la délivrance plus grande, comprenez-vous? Ces retards que vous connaissez peut-être dans votre vie et qui vous font presque douter que Dieu veuille intervenir, c'est pour fortifier votre foi, pour rendre la délivrance plus grande à son heure. Ne vous impatientez pas, mais attendez-vous au Seigneur. Et la fille est guérie, totalement guérie. Quand la femme retourne chez elle, elle trouve sa fille délivrée du démon. Mais Jésus a éprouvé sa foi. Alors, mes amis, pour laisser un texte biblique derrière ces trois premiers messages, autorité du Seigneur sur la puissance de Satan, autorité du Seigneur sur la maladie, autorité du Seigneur sur la mort, c'est ce que nous allons voir ce soir, n'est-ce pas? Toute puissance lui a été donnée même sur la mort. Eh bien, je vous ai invité à lire le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Et nous allons, si vous le voulez bien, le relire pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là et qui verront comment vraiment Jésus avait autorité sur les puissances diaboliques et sur Satan lui-même, comment il avait autorité sur une maladie réputée incurable et comment il est le vainqueur de la mort. De sorte que ce n'est pas les idées de Gaston Racine que vous aurez entendues, mais vous vous souviendrez, non pas de moi, mais de ce que le Seigneur a fait. Et dans ce chapitre 5, il y a les trois délivrances. Hein. Ils arrivèrent, donc il est avec ses disciples, il vient de traverser la mer, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, au pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Ce n'est pas ainsi que le Créateur avait fait l'homme. Il l'avait placé non pas dans un sépulcre, mais dans un jardin de délices et de charme. Il ne l'avait pas créé impur, il l'avait créé bon, mais libre, mais pur de tout, et innocent. Et comment le retrouve-t-il? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. L'homme naturel, maintenant, est devenu esclave de Satan sous la puissance du diable, qui devient un danger public. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Méditez vous-même là-dessus et vous verrez toutes les pistes de réflexion que je vous laisse, mais que vous défricherez vous-même pour en faire de larges avenues et vous serez nourris par la parole de Dieu. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et les démons savaient très bien aussi que le cœur de ces Gadaréniens était au fond dans ces affaires de pourceaux. Ils faisaient un trafic avec ces pourceaux. Leur attachement
étaient à leurs affaires, même si leurs affaires étaient une affaire de pourceau. Et bien souvent, n'est-ce pas, nous manifestons dans notre cœur et nous, à nous, que nous préférons les pourceaux du monde à la personne du Seigneur. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous préférez au Seigneur Jésus? Nous faire une sainte semaine biblique à Châteauguay et nous avions ce texte. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor? Est-ce que Jésus est notre trésor? Si Jésus est notre trésor, où est-il ce trésor? Il est où, Jésus? Dans les cieux. Et notre cœur, il devrait être dans les cieux. C'est pourquoi je dis qu'un chrétien, c'est un homme qui a le cœur dans le ciel, mais les pieds sur la terre et la tête sur les épaules. Mais son cœur est là où est son trésor. Et alors, il est imprégné des choses célestes, des choses invisibles, et il marche dans ce monde comme Moïse, qui marchait à travers le désert, comme voyant qui? L'invisible. Et c'est cela la marche chrétienne. Nous marchons dans un désert. Le monde devient de plus en plus un désert pour nous. Nous n'y trouvons rien. Sinon, on voit-il de la chair, on voit-il des yeux, orgueil de la vie. Mais vous ne trouvez pas le repos dans ce monde. En Jésus, vous venez de chanter, nous avons un repos qui est céleste. Quel repos céleste. Il faut penser aux paroles que nous chantons. Parce que sans ça, nous blasphémons. Ce que j'ai dit souvent, on blasphème souvent plus dans nos églises que dans les tavernes du Québec. Parce que quand nous chantons des paroles que nous ne vivons pas et que nous ne réalisons pas, nous blasphémons. Nous blasphémons. Nous voulons la réalité dans nos vies. C'est tellement facile de s'exalter en chantant. Hein. Et avec des petits cœurs, voilà, brum, bon, on part. Et puis... c'est facile, hein, mais on retombe après sur nous-mêmes, alors que le Seigneur nous garde de toute cette exaltation mystique et qu'il nous donne d'être réaliste. Et le Seigneur permit donc que les pourceaux soient détruits. Verset 13, il le leur permit. Et les Égyptiens purent sortir, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita. Des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle. Dans la ville et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Et qu'est-ce qu'ils virent? Ils virent auprès de Jésus. Oh, que c'est beau. Voilà un homme qui était lié, voilà un danger public, un homme qui faisait peur à tout le monde, un homme qui était méchant, un homme qui pouvait massacrer les enfants. Eh bien, voilà qu'il le trouve, le démoniaque, qui avait légion assis, donc dans le repos. Enfin, ce n'était plus un agité, il avait trouvé le repos, ce repos dont vous avez parlé dans votre cantique. Le repos, il l'a eu en Jésus. Vêtu, le voilà justifié alors qu'il était nu avant. Mais maintenant, il est vêtu, rendu juste par la robe de justice que le Seigneur donne à ses élus. Et dans son bon sens, il a maintenant retrouvé son bon sens. Car tant que nous sommes loin de Jésus, comme l'enfant prodigue, nous sommes hors de sens. Et l'enfant prodigue, il s'est éloigné, il est allé dans le pays éloigné de son père, et loin de son père, il était hors de son bon sens. Et comment a-t-il retrouvé le bon sens? Quand il est rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, il a retrouvé la pensée de son père. Et nous avons besoin de rentrer en nous-mêmes pour nous souvenir que nous avons un père. Et c'est ça qui est merveilleux. Et alors quand on se souvient qu'on a un père, on sent que nous avons besoin de lui demander pardon. Je m'en irai vers mon père. Ce père que l'on souhaitait mort, parce que quand on demande l'héritage à son père, qu'est-ce qu'on veut lui dire? Tu mets trop de temps pour mourir. Parce que l'héritage, on l'a à la mort du père. De sorte que mentalement, l'enfant prodigue avait tué le père, puisqu'il ne mourait pas, eh bien, il l'a tué mentalement et il a demandé la part de l'héritage. Mais quand il eut tout dépensé en vivant dans la débauche, eh bien, tout à coup, quand il n'a plus rien et qu'il est avec quoi ? Des pourceaux, et qu'il n'a pas même la nourriture des pourceaux, hein. Eh bien, il dit, combien de mercenaires de mon père ont dû faire en abondance, et moi, je péris ici de faim, hein, de faim. Et il dit, je retournerai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu vois là, quand il arrive, le père aurait pu être mort, hein. C'est vrai, ce puissant. Mais qu'est-ce qu'il apprend? C'est lui qui était mort. Lui était mort, voici mon fils qui était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Vous voyez l'amour du Père, oh, ces paraboles du Seigneur, comme elles devraient vous encourager. Le Père vous attend, le Père t'attend, malgré tous tes écarts, il est là, qui ne cesse de regarder de ce côté où tu dois revenir à lui. Il ne fera pas peser sa main contre toi, mais il t'accorde son pardon. Tu connais la divine étreinte quand tu reviens au Père. Il y a ce beau quand tu reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Et vous connaissez alors ce pardon et qui nous libère, qui nous délivre, et la joie du festin. Ne soyons pas comme le fils aîné, n'est-ce pas, qui ne veut pas se joindre, hein, à la joie du Père qui a retrouvé le prodigue. Bien oui, on était hors de son sens, mais on a retrouvé notre bon sens, car il est dit, l'insensé a dit en son cœur. Quand on ne veut pas de Dieu, c'est qu'on est tout simplement insensé, sans bon sens. Mais maintenant que l'on l'a retrouvé, on a retrouvé notre bon sens, car il est tout à fait raisonnable de croire, hein, et que nous avons un Dieu qui est un Père, et comme j'aime à le dire aussi, un Père qui a un cœur de mère. Nous n'avons pas besoin d'une mère dans le ciel, puisque nous avons un Père au cœur de mère. Et alors, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Voilà. On ne veut pas de Jésus, qui a pourtant fait une délivrance merveilleuse. Le Satan a été vaincu. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. On voudrait tout de suite aller avec le Seigneur. Puis le Seigneur nous dit, non, c'est encore un ministère, c'est encore un service. Moi, je dois partir, mais toi, tu peux témoigner de ce que j'ai fait pour toi, et d'abord auprès de ceux qui nous connaissent. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Bien, vous me direz, mais vous nous aviez déjà lu cela, vous nous avez demandé de lire cela hier soir, on l'avait lu, puis vous nous relisez encore aujourd'hui. Vous redire les mêmes choses, disait saint Paul, ne m'êtes pas pénible, c'est votre sûreté. Et voyez-vous, plus nous lisons la parole, plus nous découvrons ces richesses et ces merveilles. Les rabbins nous disent qu'il y a 70 interprétations différentes, non pas contradictoires, dans chaque verset biblique. Alors vous pouvez lire 70 fois le même passage en découvrant de nouvelles merveilles. Ne dites jamais, oh j'ai déjà lu cela, mais dites, Seigneur, qu'as-tu à me montrer de nouveau dans ce passage que j'ai déjà lu plusieurs fois? Et tout à coup, une lumière nouvelle, qui n'est pas contradictoire avec d'autres pensées que vous avez déjà eues, mais qui s'ajoute. C'est pourquoi la parole de Dieu nous fait grandir. Quand on la lit, elle s'illumine. L'entrée de tes paroles illumine. Nous révèle davantage quelque chose de lui, de sa bonté et de sa beauté. Et ses paroles donnent de l'intelligence à qui davantage au simple. Alors restons simples et demandons au Seigneur de nous éclairer. Il a caché ces choses aux sages, dit Jésus, aux intelligents, mais il les a révélées aux petits-enfants. Alors lisons toujours la Bible avec un cœur d'enfant. Grandissons pour être des fils, mais restons avec un cœur d'enfant qui s'émerveille encore. Sachons nous émerveiller devant la parole comme un enfant. Et vous verrez que cette parole nous fera vivre. Et les âmes seront dans l'étonnement. Il faut que les chrétiens aient un christianisme qui étonne le monde. Mais est-ce que le monde est étonné par nos vies? Nous ressemblons si étrangement aux gens du monde. Qu'est-ce que ça a changé, notre conversion? Qu'est-ce qu'ils voient de changer? Les chrétiens se plaisent. Les chrétiens murmurent. Les chrétiens n'ont pas l'air vraiment d'être heureux. Oh oui, il y a la flamme de la conversion, mais après, eh bien, oh, après, eh bien, c'est plus le premier amour et on pense que c'est normal. Après, eh bien non, il devrait y avoir toujours plus d'amour. Nous devons être comme un buisson ardent qui ne se consume pas. Voilà l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors, première délivrance, délivrance de Satan. Puis, deuxième, Jésus, dans la barque, regagne à l'autre rive, il ne s'est pas imposé, où une grande foule s'assemble près de lui. On ne veut pas de lui à un endroit, mais on l'attend. Et il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il lui adressa à cet instant prière, « Ma fille, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » C'est le cri d'un père, vous êtes mère, vous avez un enfant malade à l'extrémité, j'ai passé par là, j'ai 5 enfants, j'ai 15 petits-enfants, bien je sais ce que ça veut dire tout cela, hein. Puis surtout quand on est éloigné les uns des autres, qu'un océan nous sépare, il peut arriver un coup de téléphone et puis un drame, nous savons tout cela. Alors comment rester dans la paix, mais aussi, eh bien, quand il y a quelque chose de tragique, toujours regarder à Jésus. Quand vous apprenez au début d'un camp, Anaïm, comme ce fut le cas il y a quelques années, où je commençais ce soir-là, le Dieu de l'impossible, c'est notre thème. Et puis voilà, le téléphone sonne, que mon fils, qui est doyen de la faculté des lettres à Lausanne, avait eu un terrible accident, 4 fractures de la colonne vertébrale. Alors, impotent pour la vie s'il s'en remet, mais on pensait qu'il allait mourir. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que je m'en vais me précipiter à Lausanne, les 180 personnes là au camp? C'était le camp de Dieu, le camp où le Seigneur m'avait appelé à servir, et mon thème était le Dieu de l'impossible. Eh bien, je suis un soldat. Alors, le Dieu de l'impossible, il peut tout pour mon fils. Ou bien il va le reprendre, ou bien il va le guérir. Mais il n'a pas besoin de ma présence. De ce que j'aurais fait. Une charge pour ma belle-fille, puis pour mes 3 petits-enfants, davantage. Alors nous avons prié, Dieu mon fils est rétabli complètement. Il avait une épaule arrachée, tout cela, 4 fractures de la colonne vertébrale, et il est en Allemagne de l'Est maintenant. Il va au Japon le mois prochain. Le Seigneur l'a rétabli entièrement, il n'y reste aucune séquelle. Et nous ne croirions pas que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il peut tout, mais dans la soumission à sa volonté. Je n'ai pas dit à Dieu ce qu'il voulait faire, mais je lui ai remis mon fils bien-aimé, mon Jean-Bernard, oui, je lui ai remis, ainsi que les siens, ainsi que sa famille. Et alors, nous avons des actions de grâce, parce que nous voyons que Dieu s'occupe de nos enfants et que nous pouvons le prier pour nos enfants. Ma fille est à l'extrémité. Et qu'est-ce que vous voyez dans le cœur de Jésus? Sa compassion. l'action, hein, c'est ça. Il va avec lui. Eh bien, croyez-le, il nous faut retrouver ce contact direct et personnel avec Jésus. Il nous faut tout lui dire et marcher avec lui. Prendre conscience qu'il est avec nous, que vous n'êtes pas des solitaires dans vos détresses, mais que quand vous lui avez demandé une chose, vous lui avez déposé votre fardeau sur le cœur, le Seigneur est avec vous. Sinon, si vous gardez votre fardeau, vous péchez. Moi, j'ai compris cela pour moi, que mes soucis étaient des péchés. Hein? Parce que Jésus nous a dit qu'il ne fallait pas nous mettre en soucis. Les oiseaux du ciel n'ont pas de soucis. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, mais pourtant leur Père céleste les nourrit. Considérez les lys des champs, ils ne travaillent ni ne fuient, et pourtant Salomon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Alors pourquoi vous mettez-vous en soucis? L'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Si nous, on s'inquiète de tout. C'est vrai ou c'est faux? C'est notre traduction à nous, hein. On s'inquiète de tout, comme si on n'avait pas le Seigneur, tout puissant, qui ne demande qu'une chose, c'est d'entrer dans notre vie. Mais on va chercher le Seigneur, c'est le dernier recours. On essaye de se débrouiller soi-même. Dans quel chapitre vous l'avez, ce fameux verset qu'on nous cite si souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je ne vous aiderai pas à trouver ce verset. Je ne vous aiderai pas. Pour quelle raison? Parce qu'il n'existe pas. C'est peut-être Sarah qui l'avait inventé quand elle a dit à Abraham, écoute, puisque ça ne vient pas et que ça ne peut plus venir, prends la petite servante. Aide-toi, le ciel t'aidera. Couche avec la servante. Et ça donne ça. Ça donne Ismaël. Et on en a encore les conséquences aujourd'hui. Savoir attendre. Même s'il tarde, le Seigneur est un Seigneur qui répond. Vous pouvez compter sur lui. Moi, je trouve que c'est admirable de voir comment Jésus répond à ce Père. Mais le long du chemin, vous voyez qu'on n'a on a pas besoin de chercher des bonnes œuvres. Elles sont là. Jésus s'en alla, la foule le suivait, le pressait. Alors, on a lu ça cet après-midi. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. J'espère qu'il n'y avait pas ma femme. Ma femme est médecin. Mais vous voyez, je suis encore là, alors je n'ai pas trop souffert du médecin là. Je peux dire comme Paul, Luc, le médecin bien-aimé, je peux dire Eva, le médecin bien-aimé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. C'est ce qui arrive là, souvent. La médecine n'est pas capable de guérir. Ayant entendu parler de Jésus, vous voyez comme c'est important d'entendre parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement, car elle avait une pensée, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle le croit. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et nous avons lu cela pour vous montrer comment, quand c'est Jésus qui guérit, il y a guérison réelle. Il y a guérison réelle. C'est pas quelque chose de fabriqué. Elle sait en son corps qu'elle est guérie. C'est une vraie guérison. C'est pas une promesse de guérison. C'est une guérison parce qu'elle a eu le contact de la foi. Tout le monde touchait Jésus, mais elle l'a touché du contact de la foi. Et Jésus s'est retourné au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Les disciples ne comprennent pas. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, ça c'est une guérison. Elle sait ce qui s'est passé en elle, elle n'a pas besoin d'aller faire une radiographie. Elle sait ce qui s'est passé en elle. C'est fait. Elle vient se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et vous voyez, qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a cru quand le touchant est cru. Elle a cru en lui. Alors, comme il parlait encore, ça c'est notre sujet de ce soir et vous le méditerez vous-même, survint chez le chef de la synagogue des gens qui lui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maire ?» Il n'a plus rien à faire. C'est trop tard. Il semble toujours que Jésus arrive trop tard. Vous savez quand il est arrivé trop tard dans une ville ? Oui. Semble-t-il à Bethanie, avec Lazare. Je pense qu'il est arrivé trop tard. C'est fantastique. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, là, vous voyez, hein, si nous commencions à tenir compte de tout ce qu'on nous dit, et d'abord je ne serais pas ici. Nous n'avons pas à tenir compte de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on nous dit. Nous faisons la volonté du Seigneur. Enfin, nous sommes perdus. Nous pouvons nous pendre comme Judas, mais nous ne voulons pas être Judas, nous voulons suivre le Seigneur. Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà, ne crains pas, crois seulement. Il paraît que c'est le premier verset que j'ai récité par cœur quand j'étais tout petit, puisque ma mère m'a dit, ne crains point, crois seulement. Eh bien oui, ne crains point, crois seulement. On nous a enseigné ces versets bibliques quand on a été tout petit, 2 ans, 3 ans, et on nous disait déjà cela, puis on nous les ressassait, alors on s'est entré quand même. Et puis quand je me suis mis à lire, alors moi je faisais toutes les liaisons, je disais ne crains point, crois seulement. N'est-ce pas? Oui, parce qu'on commence à lire, hein. Alors, on y met toutes les lettres, alors on nous corrige, mais c'est merveilleux quand tout à coup on voit que ce verset qu'on a appris quand on était tout petit, maintenant on peut le lire, hein. Mais on nous dirige encore dans notre lecture. Et c'est une parole de Jésus, verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Vous voyez, il n'y a rien de spectaculaire, j'ai en abomination les choses. Ne m'organisez jamais une réunion avec ce système de show. J'ai une abomination là, parce que je ne vois pas le Seigneur faire cela. Hein. Nous sommes à la disposition du Seigneur, nous allons au jour le jour. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques, les plus intimes du Seigneur. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Je ne sais pas si vous êtes allé en Orient, et si vous avez vu ou entendu ce qui se passe dans un enterrement, on enterre le même jour, hein, et c'est quelque chose, j'ai vu à Jérusalem, j'ai vu à d'autres places, c'est quelque chose d'assez effrayant. Et il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Vous savez qu'on est dans le siècle du bruit, de toute manière. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Koumi. Ce qui signifie « Je me suis, lève-toi, je suis dit. » C'est pas de fortes recommandations pour que tout le monde le sache. C'est ça, votre version? Hein? Non. Il ne veut pas qu'on fasse de la propagande pour que personne ne suit la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Comme c'est beau. Jésus qui ordonne qu'on donne à manger à ces jeunes filles qui viennent de revenir à la vie. Mais il faut l'entretenir, cette vie. Par quoi? Par la nourriture. Alors il donne un bon conseil. Donnez-lui à manger. Voilà alors la puissance de Jésus sur la mort. On l'a vu sur la puissance de Satan, sur la maladie. Il a la toute puissance. Il est entré en sympathie avec tous ceux qui sont malades. Et si nous allons à Jésus dans nos maladies, dans nos infirmités, dans nos épreuves, nous verrons aussi le Seigneur intervenir pour nous et faire de nous des instruments de louange, des harpes célestes déjà sur la terre. Nous entonnons la louange et nous pouvons parler des miracles du Seigneur. Nous y croyons encore. Et comme nous l'avons souligné, et pour que ce soit bien clair, vous n'êtes pas malade nécessairement parce que vous auriez péché, mais le Seigneur permet ces dispensations pour notre bien suprême. Et il y a des hommes qui étaient de grands serviteurs de Dieu qui ont été malades. On voit Jacob lui-même, la première fois qu'il est parlé de malade dans l'Écriture, c'est avec Jacob. On vient dire à Joseph que son père est malade, chapitre 48 de la Genèse. Jacob, mais vous me direz, mais Jacob, il pouvait bien être malade après cette vie un peu tumultueuse qu'il a eue. Oui, mais quel beau témoignage. Il a rempli. Il parle de ses pères qui ont marché devant Dieu, Abraham et Isaac, et il dit de lui que lui, eh bien, il n'a pas atteint l'âge de ses pères, mais il dit, l'Éternel, le Dieu de mes pères, devant lequel mes pères ont marché, Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger, c'est-à-dire celui qui m'a toujours ramené. Jacob a surtout connu Dieu comme un berger. Il a fait bien des écarts, bien des faux pas, mais il peut parler à la fin de sa vie, sur son lit de mort, du Dieu qui a été son berger. Et j'aime beaucoup la fin de Jacob parce que qu'est-ce qu'il a fait dans sa mort? Il adora appuyé sur le but de son bâton. Il meurt dans l'adoration. Et bien que notre fin soit semblable à la sienne, si nous devons mourir, que nous puissions mourir dans l'adoration. C'est ce qu'il est dit dans le chapitre 11 des Hébreux. Il adora appuyé sur le bout de son bâton. Mourir dans l'adoration. Et il y a eu en particulier aussi Élisée. Élisée, chapitre 13 du deuxième livre des Rois, était malade de la maladie dont il mourut. Alors nous dire que si nous sommes malades, c'est parce que nous ne sommes pas vraiment le Seigneur, c'est faux. Puis un jour, on doit bien mourir. Il n'est pas question de demeurer toujours ici-bas. Et cela, c'est une vérité sur laquelle tout le monde est d'accord. La mort est un dénominateur commun qui rassemble tous les hommes. Tôt ou tard, il faut mourir. Nous n'allons pas rester toujours ici-bas. Nous avons parlé du retour du Seigneur et d'une génération qui ne passera pas par la mort. Mais d'une façon habituelle, eh bien, l'homme sait qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela vient le jugement. Hébreux chapitre 9. Et puis, et dans l'Ecclésiaste, il est dit que personne n'a de pouvoir sur le jour de la mort. Personne n'a une puissance pour dire c'est tel jour et telle heure, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de pouvoir sur le jour de la mort. Elle peut nous surprendre à tout instant. C'est pourquoi il est nécessaire d'être prêt. On peut mourir jeune. On voit des tombes dans les cimetières de jeunes qui ont perdu la vie d'une manière ou d'une autre, soit par la maladie ou dans un accident. Nous devons être prêts dès l'enfance à ce départ, parce que dès qu'on entre dans ce monde, on risque de mourir, même le bébé. Hein. On entre, on crie et c'est la vie, on crie, on sort et c'est la mort, hein, c'est déjà cela. comme le disait Tessier. Eh bien, voilà, mes amis, notre destinée, il n'y a pas d'espérance de demeurer toujours ici-bas. Alors, nous devrions nous préparer pour ce séjour où nous irons. Et quel est ce séjour? Est-ce que c'est le tombeau, le sépulcre? J'aime beaucoup cette parole de Job, le patriarche d'autrefois, qui disait « Je sais que tu me mènes à la mort, la maison de rassemblement de tous les vivants. » Et Jésus disait « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que pour Dieu, tous sont vivants. Tous sont vivants. Oui, ils sont morts, ils sont séparés. La mort, c'est la séparation de l'environnement. Ils ont quitté cet environnement. Ils ne sont plus avec nous, mais absents du corps, ils sont présents avec le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Et nous savons que Jésus est le vainqueur de la mort. Ce qu'il a fait là pour la fille de Jaïrus, eh bien, il allait l'accomplir pour lui-même. Il a été frappé à mort à la croix, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est entré dans le tombeau, mais il en est sorti triomphant. Et qui est-ce qui avait reçu le pouvoir de la mort depuis la chute? Car Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir, il l'avait créé pour la vie et la vie éternelle. Il pouvait se nourrir du fruit de l'arbre de vie, mais une fois tombé dans le péché, Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse vivre éternellement dans le péché. Alors le chemin de l'arbre de vie a été gardé par les chérubins, parce que la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de vivre toujours dans notre état physique, hein, dans notre état de péché, ou dans nos infirmités. La mort, en quelque sorte, est pour beaucoup une délivrance. Mais à cause de la crainte de la mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, pendant toute leur vie, les hommes sont maintenus dans la servitude. Je lis cela au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, où il dit ceci au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, verset 14, il y a également le Seigneur participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » La puissance de la mort a été vaincue. Et qui est-ce qui avait la puissance de la mort? C'était le diable qui a été vaincu. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie dans la servitude. Et c'est vrai, chers amis, que quand même les gens ont peur de la mort, ou craignent la mort, peut-être davantage le mourir, que la mort elle-même, comme disait Montaigne, n'est-ce pas, ne craignez pas la mort, soi-disant, mais le mourir, la façon de partir. Eh bien, c'est vrai que souvent la chair se hérisse, se frissonne en présence de la mort. Nous n'avons pas été créés pour la mort. Nous n'avons pas été créés pour les humiliations du sépulcre. Et il y a une espèce de révolte, n'est-ce pas, en nous. On n'est pas créé pour la mort. Ce n'était pas notre destin. C'était la vie auprès du Seigneur, sans passer par là. Mais maintenant, à cause du péché, eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort passe à tous les hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui est excepté? Non, tous les hommes doivent passer par ce chemin-là. Et alors, voilà, cette crainte de la mort, comment l'avez-vous, la voyez-vous? Est-ce que vous l'avez encore? Est-ce que c'est pour vous, comme le disait Job, le roi des épouvantes, le roi des terreurs? Ou bien est-ce que vous êtes libéré, délivré de la crainte de la mort? Oh, ne dites pas, bon, on s'en occupera plus tard, mais nous avons encore, nous sommes en bonne santé, nous avons toute notre vie devant nous. Et puis, voyez-vous, il n'y a peut-être qu'un pas, dit David, entre moi et la mort. Je suis là aujourd'hui, mais il n'y a peut-être qu'un pas entre moi et la mort. Vous savez, la mort, là, l'éternité, c'est pas sur la ligne d'horizon. Puis alors là, les jeunes seraient les petites embarcations qui viennent de partir du port. Et puis ceux qui sont plus âgés, eh bien, vous les voyez s'éloigner de plus en plus vers la ligne d'horizon. Et puis les plus vieux, tout d'un coup, ils disparaissent sur la ligne d'horizon. Hein? On dit, mais on a encore un bout de chemin à faire. Non, c'est pas comme cela. Nous sommes tous sur la ligne d'horizon. Et d'un instant à l'autre, nous pouvons disparaître. Nous n'allons pas vers la mort comme ça. Nous sommes sur les bords de l'éternité. À tout instant, nous pouvons partir. Il est dit, s'il ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirerait en temps. Personne ne subsisterait s'il ne pensait qu'à lui-même. Mais voilà, nos jours sont comptés dès les entrailles de notre mère. Eh bien, c'est une chose qui est merveilleuse dans Psaume 139. Quand nous avons été conçus, que nous n'étions encore qu'une substance informe, dans les entrailles de notre mère, Dieu voyait cette substance informe. Et dans son livre, tous nos jours étaient écrits alors qu'il n'y en avait encore aucun. Quand on fait lire cela à quelqu'un qui veut se faire avorter, bien je vous promets que ça lui fait un effet extraordinaire. La parole de Dieu a une force extraordinaire. Et nous n'allons pas tuer cette vie. C'est lui qui fait naître. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui préside à la naissance comme aussi à la mort. Mais voilà, mes amis, une fois qu'on est en vie, on est pris par ceci, on est pris par cela, puis on essaye d'oublier qu'un jour il faut mourir. Et pourtant tout nous le rappelle. Tout nous rappelle qu'un jour il faut mourir. On sort de la maison et c'est cortège funèbre qui s'en va au cimetière. Puis il est dit, un verset qui dit, « Et après lui, tout homme suit à la file, et ceux qui l'ont précédé, quand on voit les tombes au cimetière, sont sans nom. » Ceux qui l'ont précédé sont sans nom, c'est vrai, c'est vrai. Et dans certains cimetières, comme en Suisse, j'ai reçu cette année la nouvelle qu'il y a 30 ans, ma femme, la mère de mes enfants bien-aimés, est partie, m'a été enlevée subitement un dimanche matin. Alors j'étais en pleine conférence biblique à Morges, à la convention, et voilà que je suis en présence. Du cadavre de ma femme. Et voilà, eh bien, j'ai compris que je devais quand même continuer de prêcher. Malgré cela, il n'était pas question de faire le transport du corps de mon épouse dans la ville que nous habitions dans un autre pays, en France, à Nice. Mais j'ai compris, là où l'arbre tombe, là aussi il demeure. Elle est tombée au nord, elle restera au nord. Si elle était tombée au midi, elle serait au midi. Et le Seigneur nous donne grâce pour qu'on aille de l'avant. Il nous enseigne par sa parole. On n'essaye pas de piquer un verset, mais l'Esprit Saint nous révèle ses pensées. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors on sait comment agir dans ces moments terribles. Et puis ce que j'ai compris, bien, c'est que là, je connaissais l'amour supérieur. Le vrai amour pour ma femme, parce que je savais où elle était mieux auprès de moi. C'est vrai. Être auprès du Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que je prêche aux autres? C'est beaucoup le meilleur. Alors ma femme ne voudrait pas revenir vers moi. Elle était mieux vers le Seigneur. Et alors que j'allais rester là devant ce cadavre, un peu comme Abraham devant Sarah, eh bien, le Seigneur me montre place n'est pas là, ta place est avec tes frères dans la louange, dans le culte. Tu ne vas pas rester à veiller le cadavre. Ta femme est dans la louange auprès du Seigneur. Va aussi pour te souvenir de moi. J'y suis allé et c'était là qu'était la bénédiction. Ah, mes amis, oui, nous passons par les épreuves, mais le Seigneur est avec nous au travers de ces épreuves. Eh bien, j'apprends maintenant que il y a plus de place au cimetière, alors les concessions sont là pour 30 ans, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on enlève tout et on réenterre sur ce qu'on a enlevé là où il y a déjà eu des morts. On remet d'autres morts. Alors, il y a des questions qui se posent, des problèmes qui se posent, si on veut garder quelque chose de nos défunts. Mais vous voyez, après lui, tout homme suit à la file. Et c'est pour ça que dans certains pays, on sera obligé de passer par la crémation parce que ça prend moins de place. Vous n'avez pas la place comme au Canada. Alors, la question de savoir est-ce que on peut se faire incinérer ou se faire enterrer, c'est une question secondaire. Parce que une fois qu'on réenterre, on ramasse tous les os qui sont sortis et les morceaux de cercueil et on les brûle. Alors on est enterré et incinéré. De sorte, vous voyez, ce sont des faux problèmes. Mais on bourre le crâne des chrétiens, souvent, avec des faux problèmes. Et puis les gens viennent, est-ce que je dois me faire enterrer ou incinérer, etc. Mais ça, c'est à votre... C'est vous qui devez le savoir, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous avez peur de vous réveiller dans votre cercueil? Eh bien, demandez à Bell Téléphone, ils vous mettront au téléphone. J'ai vu un cercueil air conditionné. 10 000 $. Puis il y avait encore un certificat. Les gens sont dingues. Mais je vous promets, ils mettent leur argent dans la... J'aime beaucoup mieux le système arabe et oriental où on nous met dans un linceul, puis on enterre ça, puis voilà. Mais ce sont des choses dont on devrait être libéré, tout cela. C'est pas des questions. Il y a des questions plus fondamentales. Est-ce que nous sommes prêts pour la mort? Est-ce que nous avons des craintes? Alors je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens craignent la mort? Puisque si souvent il la désire. Ah, de loin, la mort, on l'auréole, n'est-ce pas? On en aurait fini, on serait dans le grand repos. Puis tout à coup, la maladie est là. Alors, on court chez le médecin. Alors, j'ai dit, on l'a souhaité, la mort, puis elle arrive. Maintenant, on court chez le médecin. Ah non, non. On veut prolonger la vie. Oui, peut-être. Mais, au fond, pourquoi est-ce qu'on craint la mort? Qu'on a des fois désiré. Si tout était fini, si on savait vraiment que tout est fini par la mort, ben peut-être autant mourir que vivre, parce que la vie n'est pas si agréable, on a tellement de misère, alors si c'était le néant, eh bien, mourons. Mais c'est pas ça. On sait très bien, la conscience nous dit, qu'après la mort, suit le jugement.